Joris Karl Huysmans, la retraite de M. Bougrand. M. Bougrand regardait accablé les fleurs inexactes du tapis. « Oui, poursuivit d'un ton paterne le chef de bureau, M. Devin. Eh oui, mon cher collaborateur, je vous ai très énergiquement défendu. J'ai tâché de faire revenir le bureau du personnel sur sa décision. » Mes efforts ont échoué. Vous êtes, à partir du mois prochain, mis à la retraite pour infirmité résultant de l'exercice de vos fonctions. Mais je n'ai pas d'infirmité, je suis valide. Sans doute, mais je n'apprendrai rien à un homme qui possède aussi bien que vous la législation sur cette matière. La loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles permet, vous le savez, cette interprétation, le décret du 9 novembre de la même année, qui porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la dite loi, dispose dans l'un de ses articles. Ah oui, l'article 30, soupira M. Bougrand. Oui, j'allais le dire, que les employés de l'État pourront être mis à la retraite avant l'âge, pour cause d'invalidité morale inappréciable aux hommes de l'art. M. Bougrand n'écoutait plus. D'un œil de bête assommé, il scrutait ce cabinet de chef de bureau où il pénétrait d'habitude sur la pointe des pieds comme dans une chapelle avec respect. Cette pièce sèche et froide, mais familière, lui semblait devenue soudain maussade et bouffie, hostile avec son papier d'un verre mat à raies veloutées, ses bibliothèques vitrées peintes en chêne et pleines de bulletins des voix, de recueil des actes administratifs, conservés dans ses reliures spéciales au ministère, des reliures en veau jaspé, avec plat en papier couleur bois étrange jaune, sa cheminée ornée d'une pendule borne, de deux flambeaux empire, son canapé de crin, son tapis à roses en forme de chou, sa table en acajou encombrée de paperasses et de livres sur laquelle posait un macaron hérissé d'amandes pour sonner les gens, ses fauteuils au ressort chagrin, son siège de bureau à la canne creusée, au bras par l'usage en demi-lune. Ennuyé de cette scène, M. Devin se leva et se posa le cou contre la cheminée dont il éventa avec les brusques de son habit les cendres. M. Bourgland revint à lui, et d'une voix éteinte demanda « Mon successeur est-il désigné afin que je puisse le mettre au courant avant mon départ ?»« Non, pas que je sache. Vous serez donc obligé de continuer jusqu'à nouvel ordre, votre service. » Et pour hâter le départ, M. Devin quitta la cheminée, s'avança doucement vers son employé qui recula vers la porte. Et là, M. Devin l'assura de ses profonds regrets et de sa parfaite estime. M. Bougrand rentra dans sa pièce et s'affaissa anéanti sur une chaise. Puis il eut l'impression d'un homme qu'on étrangle. Il mit son chapeau et sortit pour respirer un peu d'air. Il marchait dans les rues et, sans même savoir où il était, il finit par échouer sur un banc dans un square. Ainsi, c'était vrai. Il était mis à la retraite à 50 ans. Lui qui s'était dévoué jusqu'à sacrifier ses dimanches, ses jours de fête, pour que le travail dont il était chargé ne se ralentît point. Et voilà la reconnaissance qu'on avait de son zèle. Oh, il eut un moment de colère, rêva d'intenter un recours devant le Conseil d'État. Puis, dégrisé, se dit « Je perdrai ma cause et cela me coûtera cher. » Lentement, posément, il repassa dans sa tête les articles de cette loi. Il scrutait les routes de cette prose, tâtait ses passerelles jetées entre chaque article. Au premier abord, ses voies semblaient sans danger, bien éclairées et droites. Puis peu à peu, elles se ramifiaient, aboutissaient à des tournants obscurs et de noires impasses, où l'on se cassait subitement les reins. Oui, le législateur de 1853 a partout ouvert dans un texte indulgent des choses trappes. Il a tout prévu, conclut-il. Le cas de la suppression d'emplois qui est l'un des plus usités pour se débarrasser des gens. On supprime l'emploi du titulaire, puis on rétablit l'emploi quelques jours après sous un autre nom, et le tour est joué. Il y a encore les infirmités physiques contractées dans l'exercice des fonctions et vérifiées par la complaisance pressée des médecins. Il y a enfin, oh, le monde le plus simple en somme, la soi-disant invalidité morale, pour laquelle il n'est besoin de recourir à aucun praticien, puisqu'un simple rapport signé par votre directeur et approuvé par la direction du personnel suffit. Mais c'est le système le plus humiliant. Être déclaré gâteux, mais c'est un peu fort, gémit M. Bougrand. Puis il réfléchissait. Oh, le ministre avait sans doute un favori à placer, car les employés ayant réellement droit à leur retraite se faisaient rares. Depuis des années, on avait pratiqué de larges coupes dans les bureaux, renouvelant tout un vieux personnel dont il était l'un des derniers débris. Et M. Bougrand hochait la tête. De bon temps, disait-il, vous étions consciencieux et remplis de zèle. Maintenant, tous ces petits jeunes gens recrutés, on ne sait où, n'ont plus la foi. Ils ne creusent aucune affaire, n'étudient à fond aucun texte. Ils ne songent qu'à s'échapper du bureau, bâclent leur travail, n'ont aucun souci de cette langue administrative que les anciens maniaient avec tant d'aisance. Tous écrivent comme s'ils écrivaient leurs propres lettres. Les chefs mêmes, racolés pour la plupart au dehors, laissés pour compte par des séries de ministres tombés du pouvoir, n'ont plus cette tenue, tout à la fois amicale et hautaine, qui les distinguait autrefois des gens du commun. Et oubliant sa propre mésaventure, en une respectueuse vision, il évoqua l'un de ses anciens chefs, M. Dérot de Bois, serré dans sa redingote, la boutonnière couverte, comme par le disque d'arrêt des trains, par un énorme rond rouge, le crâne chauve ceint d'un duvet de poule, aux tempes, descendant droit, sans regarder personne, un portefeuille sous le bras chez le directeur. Toutes les têtes s'inclinaient sur son passage. Les employés pouvaient croire que l'importance de cet homme rejaillissait sur eux, et ils se découvraient pour eux-mêmes plus d'estime. Dans ce temps-là, tout était à l'avenant. Les nuances, maintenant disparues, existaient. Dans les lettres administratives, l'on écrivait en parlant des pétitionnaires « Monsieur » pour une personne tenant dans la société un rang honorable. Et le sieur pour un homme de moindre marque, le nommé pour les artisans et les forçats. Et quelle ingéniosité pour varier le vocabulaire, pour ne pas répéter les mêmes mots. On désignait tour à tour le pétitionnaire, le postulant, le suppliant, l'impétrant, le requérant. Le préfet devenait un autre membre de phrase, ce haut fonctionnaire. La personne dont le nom motivait la lettre se changeait en cet individu, en le prénommé, en le susnommé. Par en elle-même, l'administration se qualifiait tantôt de centrale et tantôt de supérieure, usait sans mesure de synonymes, ajoutait, pour annoncer l'envoi d'une pièce, des ci-joints, des ci-inclus, des sous-se-plis. Partout s'épandaient les protocoles. Les salutations de fin de lettre variaient à l'infini, se dosaient à de justes poids, parcouraient une gamme qui exigeait des pianistes de bureau, un doigt terrare. Ici, s'adressant au sommet des hiérarchies, c'était l'assureur de la haute considération. Puis la considération baissait de plusieurs crans, devenait pour les gens n'ayant pas de rang de ministre la plus distinguée. La très distinguée, la distinguée, la parfaite, pour aboutir à la considération sans épithète, à celle qui se niait elle-même, car elle représentait simplement le comble du mépris. Quel employé savait maintenant manipuler ce délicat clavier des fins de lettres, choisir ses références, très difficiles à tirer souvent, alors qu'il s'agissait de répondre à des gens dont la situation n'avait pas été prévue par les dogmes imparfaitement imposés des protocoles. Hélas, les expéditionnaires avaient perdu le sens des formules, ignoraient le jeu habile de compte-gouttes. Et qu'importait au fond, puisque tout se délitait, tout s'effondrait depuis des ans. Le temps des abominations démocratiques était venu, et le titre d'excellence que les ministres échangeaient autrefois entre eux avait disparu. L'on s'écrivait d'un ministère à l'autre, de père à compagnon, comme des négociants et des bourgeois. Les faveurs même, ces rubans en soie verte ou bleue ou tricolore, qui attachaient les lettres alors qu'elles se composaient de plus de deux feuilles, étaient remplacées par de la ficelle rose, à 5 sous la plotte. Quelle platitude et quelle déchéance! Oh, je me sentais bien mal à l'aise dans ces milieux sans dignité authentique et sans tenue, mais de là à vouloir les quitter, et, soupirant, M. Beaugrand revint à sa propre situation, à lui-même. Mentalement, il supputait la retraite proportionnelle à laquelle il aurait droit. 1 800 francs au plus. Avec les petites rentes qu'il tenait de son père, c'était tout juste de quoi vivre. Il est vrai, se dit-il, que ma vieille bonne Lali et moi, nous vivons de rien. Mais bien plus que la question des ressources personnelles, la question du temps a tué l'inquiéta. Comment rompre du jour au lendemain avec cette habitude d'un bureau, vous enfermant dans une pièce toujours la même, pendant d'identiques heures, avec cette coutume d'une conversation échangée chaque matin entre collègues? Oh, sans doute, ces entretiens étaient peu variés. Ils roulaient tous sur le plus ou moins d'avancement qu'on pouvait attendre à la fin de l'année, supputaient de probables retraites, escomptaient même de possibles morts, supposait d'illusoires gratifications, ne défiait de ces sujets passionnants que pour s'étendre en d'interminables réflexions sur les événements relatés par le journal. Mais ce manque même d'imprévu était en si parfait accord avec la monotonie des visages, la platitude des plaisanteries, l'uniformité même des pièces. Puis n'y avait-il pas d'intéressantes discussions dans les bureaux du chef ou du sous-chef, sur la marche imprimée à telle affaire, par quoi remplacer désormais ces joutes juridiques, ces apparents litiges, ces gais accords, ces heureuses noises? Comment se distraire d'un métier qui vous prenait au moelle, vous possédait tout entier à fond? Et M. Bougrand secouait désespérément la tête, se disant: je suis seul, célibataire, sans parents, sans amis, sans camarades. Je n'ai aucune aptitude pour entreprendre des besognes autres que celles qui pendant 20 ans me tinrent. Oh, je suis trop vieux pour recommencer une nouvelle vie. Cette constatation le terrifia. Voyons, reprit-il en se levant, il faut pourtant que je retourne à mon bureau. Ses jambes vacillaient. « Oh, je me sens pas bien, si j'allais me coucher. » Il se força à marcher, résolu à mourir, s'il le fallait, sur la brèche. Il rejoignit le ministère et rentra dans sa pièce. Là, il faillit s'évanouir, et pour tout de bon. Il regardait ahuri, les armes aux yeux, cette coque qu'il avait pendant tant d'années couvert. Et quand doucement ses collègues à la queue leu-leu entrèrent. Ils avaient guetté la rentrée et les condoléances variaient avec les têtes. Le commis d'ordre, un grand séco à tête de marabout, peluché de quelques poils incolores sur l'occiput, lui secoua vivement les mains sans dire mot. Il se comportait envers lui comme envers la famille d'un défunt à la sortie de l'église, devant le corps, après l'absoute. Les expéditionnaires hochaient la tête, témoignaient de leur douleur officielle en s'inclinant. Les rédacteurs, ses collègues plus intimes avec lui, esquissèrent quelques propos de réconfort. Voyons, il faut se faire une raison. Et puis, mon cher, songez qu'en somme, vous n'avez ni femme ni enfant, que vous pourriez être mis à la retraite dans des conditions infiniment plus dures, en ayant, comme moi par exemple, une fille à marier. Estimez-vous donc aussi heureux qu'on peut être en pareil cas? Il convient aussi d'envisager dans toute affaire le côté agréable qu'elle peut présenter, fit un autre. Vous allez être libre de vous promener, vous pourrez manger au soleil, vos petites rentes. Et allez vivre la campagne, vous serez comme un coq en pâte, ajouta un troisième. Monsieur Bougrand fit doucement observer qu'il était originaire de Paris, qu'il ne connaissait personne en province. Il ne se sentait pas du tout le courage de s'exiler sous prétexte d'économies à réaliser dans un trou. Tous n'en persistèrent pas moins à lui démontrer qu'en fin de compte, il n'était pas bien à plaindre. Et comme aucun d'eux n'était menacé par son âge d'un semblable sort, ils exhibaient une résignation de bon aloi, s'indignaient presque de la tristesse de M. Bougrand. L'exemple de la réelle sympathie et du véridique regret, ce fut Baptiste, le garçon de bureau, qui le servit. L'air onctueux et consterné, il s'offrit à porter lui-même chez M. Bougrand les petites affaires, telles que vieux paletots, plumes, crayons, etc., que celui-ci possédait à son bureau, laissant entendre que ce serait aussi la dernière occasion que M. Bougrand aurait de lui donner un bon pourboire. « Allons, messieurs, » fit le chef qui entra dans la pièce. « Le directeur demande le portefeuille pour 5 heures. » Tous se dispersèrent, et, hennissant comme un vieux cheval, M. Bougrand se mit au travail, ne connaissant plus que la consigne, se dépêchant de rattraper le temps qu'il avait dans ses douloureuses rêveries sur un banc perdu. Les premiers jours furent lamentables. Réveillé à la même heure que jadis, il se disait « à quoi bon se lever ?» traînait, contrairement à ses habitudes, dans son lit, prenait froid, bâillait, finissait par s'habiller. « Mais à quoi s'occuper, Seigneur ?» Après de mûres réflexions, il se décidait à aller se promener, à errer dans le jardin du Luxembourg, qui n'était pas éloigné de la rue de Vaugirard où il habitait. Mais ses pelouses soigneusement peignées, sans la tache de terre ni d'eau, comme repeintes et vernies chaque matin dès l'aube, ses fleurs remontées comme un œuf sur les fils de fer de leurs tiges, ces arbres gros comme des cannes, toute cette fausse campagne plantée de statues imbéciles, ne l'égayait guère. Il allait se réfugier au fond du jardin, dans l'ancienne pépinière sur laquelle maintenant tombaient les solennelles ombres des constructions de l'école de pharmacie et du lycée Louis-le-Grand. La verdure n'y était ni moins apprêtée, ni moins éthique. Les gazons y étalaient leurs cheveux coupés, rasés verts. Les petits arbres y balançaient les plumeaux ennuyés de leur tête. Mais la torture infligée dans certaines plates-bandes aux arbres fruitiers l'arrêtait. Ces arbres n'avaient plus forme d'arbres. On les écartelait le long de tringles, on les faisait ramper le long de fils de fer sur le sol. On leur déviait les membres de leur naissance. Et on obtenait ainsi des végétations acrobates et les troncs désarticulés comme en caoutchouc. Il courait, serpentait ainsi que des couleuvres, s'évasait en forme de corbeille, simulait des ruches d'abeilles, des pyramides, des éventails, des vases à fleurs, des toupettes clowns. C'est une vraie cave des tortures végétales que ce jardin, où elle est de chevalets, de brodequins d'osier ou de fontes, d'appareils en paille, de corsets orthopédiques. Des jardiniers hernières tentaient, non de redresser les tailles déviées, comme chez les bandagistes de la race humaine, mais au contraire de les contourner, de les disloquer et de les tordre, suivant un probable idéal japonais de monstre. Mais quand il avait bien admiré cette façon d'assassiner les arbres, sous le prétexte de leur extirper de meilleurs fruits, il traînait, désœuvré, sans même s'être aperçu que cette chirurgie potagère présentait le plus parfait symbole avec l'administration telle qu'il l'avait pratiquée pendant des années. Dans les bureaux, comme dans le jardin du Luxembourg, l'on s'ingéniait à démantibuler des choses simples. L'on prenait un texte de droit administratif dont le sens était limpide, net, et aussitôt, à l'aide de circulaires troubles, à l'aide de précédents sans analogie et de jurisprudence remontant au temps des Messidors et des Vendoses, l'on faisait de ce texte un embrouillamini, une littérature de magots, aux phrases grimaçantes, rendant les arrêts les plus opposés à ceux que l'on pouvait prévoir. Puis il remontait, allait sur la terrasse du Luxembourg où les arbres semblent moins jeunes, moins fraîchement époustés, plus vrais. Et il passait entre les chaises, regardant les gamins faire des pâtés avec du sable et de petits seaux, tandis que leur mère causait, coude à coude, échangeant d'actives réflexions sur la façon d'apprêter le veau et d'accommoder pour le déjeuner du matin les restes. Il rentrait harassé chez lui, remontait, bâillait, se faisait rabrouer par sa servante de la lit, qui se plaignait qu'il devint bassin, qu'il crut le devoir de venir troller dans sa cuisine. Et bientôt, l'insomnie s'en mêla. Arraché à ses habitudes, transporté dans une atmosphère d'oisiveté lourde, le corps fonctionnait mal, l'appétit était perdu. Les nuits, jadis si bonnes, sous les couvertures, s'agitèrent et s'assombrirent, alors que, dans le silence noir, tombaient, au loin, les heures. Il s'avisa de lire dans la journée quand il plut. Et alors, fatigué de ses insomnies, il s'endormit. Et la nuit qui suivait ses somnolences devenait plus longue, plus éveillée encore. Et il dut, quand le temps se gâta, se promenait quand même pour se lasser les membres. Il échoua dans les musées, mais aucun tableau ne l'intéressait. Il ne connaissait aucune toile, aucun maître, ambulait lentement, les mains derrière le dos, devant les cadres, s'occupant des gardiens assoupis sur les banquettes, supputant la retraite qu'eux aussi, en leur qualité d'employés de l'État, ils auraient un jour. Il se promena, las de couleurs et de statues blanches, dans les passages de Paris, mais il en fut rapidement chassé. On l'observait. Les mots de Mouchard, de Roussin, de vieux poivreau s'entendirent. Honteux, il fuyait sous la verse et retournait se cantonner dans son chez-lui. Et plus poignant que jamais, le souvenir de son bureau l'obséda. Vu de loin, le ministère lui apparaissait tel qu'un lieu de délices. Il ne se rappelait plus les iniquités subies, son sous-chef dérobé par un inconnu entré à la suite d'un ministre, l'ennui d'un travail mécanique forcé. Tout l'enfer de cette existence de cul-de-jatte s'était évanoui. La vision demeurait seule d'une vie bien assise, douillette, tiède, égayée par des propos de collègues, par de pauvres plaisanteries, par de minables farces. Décidément, il faut aviser, se dit mélancoliquement M. Bougrand. Il songea pendant quelques heures à chercher une nouvelle place qu'il occuperait et lui ferait même gagner un peu d'argent. Mais même en admettant qu'on consentît à prendre dans un magasin un homme de son âge, alors il devrait trimer du matin au soir. Il n'aurait que des appointements ridicules puisqu'il était incapable de rendre le sérieux service dans un métier dont il ignorait les secrets et les ressources. Et puis ce serait déchoir. Comme beaucoup d'employés du gouvernement, M. Bougrand se croyait en effet d'une caste supérieure et méprisait les employés des commerces et des banques. Il admettait même des hiérarchies parmi ses congénères. Jugeait l'employé d'un ministère supérieur à l'employé d'une préfecture, de même que celui-ci est à ses yeux d'un rang plus élevé que le commis employé dans une mairie. Alors que devenir? Que faire? Et cette éternelle interrogation restait sans réponse. De guerre lasse, il retourna à son bureau, sous le prétexte de revoir ses collègues, mais il fut reçu par eux comme sont reçus les gens qui ne font plus partie d'un groupe, froidement. L'on s'inquiéta d'une façon indifférente de sa santé, d'aucuns feignirent de l'envier, vantèrent la liberté dont il jouissait, les promenades qu'il devait aimer à faire. M. Bougrand souriait, le cœur gros. Un dernier coup lui fut inconsciemment porté. Il eut la faiblesse de se laisser entraîner dans son ancienne pièce. Il vit l'employé qui le remplaçait, un tout jeune homme. Une colère le prit contre ce successeur, parce qu'il avait changé l'aspect de cette pièce qu'il aimait, déplacé le bureau, poussé les chaises dans un autre coin, mis les cartons dans d'autres cases. L'encrier était à gauche maintenant, et le plumier à droite. Il s'en fut navré. Et en route, soudainement, une idée germa qui grandit en lui. « Ah ! » fit-il, « mais je suis sauvé, peut-être !» Et sa joie fut telle qu'il mangea en rentrant de bon appétit ce soir-là, dormit comme une taupe, se réveilla guilleré dès l'aube. Ce projet qu'il avait ragaillardi était facile à réaliser. D'abord, M. Bougrand courut chez les marchands de papier de tenture, acquit quelques rouleaux d'un infâme papier couleur de chicorée au lait qu'il fit apposer sur les murs de la plus petite de ses pièces. Puis il acheta un bureau en sapin peint en noir surmonté de casier, une petite table sur laquelle il posa une cuvette ébréchée et un savon à la guimauve dans un vieux verre, un fauteuil canné en hémicycle, deux chaises. Il fit mettre contre les murailles des casiers de bois blanc qu'il remplit de cartons verts à poignées de cuivre, piqua avec une épingle un calendrier le long de la cheminée dont il fit enlever la glace et sur la tablette de laquelle il entassa des boîtes d'affiches, jeta un paillasson, une corbeille sous son bureau et se reculant un peu, s'écria ravi « Mais voilà, j'y suis !» Sur son bureau, il rangea, dans un ordre méthodique, toute la série de ses porte-plumes et de ses crayons, porte-plumes en forme de massue, en liège, porte-plumes à cuirasse de cuivre emmanchée dans un bâton de palissandre, sentant bon quand on le mâche, crayons noirs, bleus, rouges pour les annotations et les renvois. Puis il disposa, comme jadis, un encrier en porcelaine, cerclé d'éponge à la droite de son sous-main, une sébille remplie de sciure de bois et à sa gauche, et en face une grimace contenant sous son couvercle de velours vert hérissé d'épingles, des pains à cacheter et de la ficelle non rose. Des dossiers de papier jaunâtre un peu partout, au-dessus des casiers les livres nécessaires, le dictionnaire d'administration de bloc, le code et les lois usuelles, le béquet, le blanche, il se trouvait, sans avoir bougé de place, revenu devant son ancien bureau, dans son ancienne pièce. Il s'assit radieux et dès lors vécut les jours d'antan. Il sortait le matin, comme jadis, et d'un pas actif, ainsi qu'un homme qui veut arriver à l'heure, il filait le long du boulevard Saint-Germain, s'arrêtait à moitié chemin de son ancien bureau, revenait sur ses pas, rentrait chez lui, tirant dans l'escalier sa montre pour vérifier l'heure, et il enlevait la rondelle de carton qui couvrait son encrier, retirait ses manchettes, y substituait des manchettes en gros papier bulle, le papier qui sert à couvrir les dossiers, changeait son habit propre contre la vieille redingote qu'il portait au ministère et au travail. Il s'inventait des questions à traiter, s'adressait des pétitions, répondait, faisait ce qu'on appelle l'enregistrement, en écrivant sur un gros livre la date des arrivées et des départs. Et la séance de bureau close, il flânait, comme autrefois, une heure dans les rues avant que de rentrer pour dîner. Il eut la chance, les premiers temps, de s'inventer une question analogue à celle qu'il aimait à traiter jadis, mais plus embrouillée, plus chimérique, plus follement niaise. Il peina durement, chercha dans les arrêts du Conseil d'État et de la Cour de cassation ces arrêts qu'on y trouve du choix pour défendre ou soutenir telle ou telle cause. Heureux de patauger dans les chinoiseries juridiques, de tenter d'assortir à sa thèse les ridicules jurisprudences qu'on manie dans tous les sens, il suait sur son papier, recommençant plusieurs fois ses minutes ou ses brouillons, les corrigeant dans la marge laissée blanche sur le papier, comme le faisait son chef jadis, n'arrivant pas, malgré tout, à se satisfaire, mâchant son porte-plume, se tapant sur le front, étouffant, ouvrant la croisée pour humer de l'air. Il vécut pendant un mois de la sorte, puis un malaise d'âme le prit. Il travaillait jusqu'à 5 heures, mais il se sentait harassé, mécontent de lui-même, distrait de pensée, incapable de s'abstraire, de ne plus songer qu'à ses dossiers. Au fond, il sentait maintenant la comédie qu'il se jouait. Il avait bien restitué le milieu de l'ancien bureau, la pièce même. Il la laissait au besoin fermée pour qu'elle exhalât cette odeur de poussière et d'encre sèche qui émane des chambres des ministères. Mais le bruit, la conversation, les allées et venues de ses collègues manquaient. Pas une âme à qui parler. Ce bureau solitaire n'était pas, en somme, un vrai bureau. Il avait beau avoir repris toutes ses habitudes, ce n'était plus cela. Ah, il aurait donné beaucoup pour pouvoir sonner et voir le garçon de bureau entrer et faire pendant quelques minutes la causette. Et puis, d'autres trous se creusaient dans le sol factice de cette vie molle. Le matin, alors qu'il dépouillait le courrier qu'il s'envoyait la veille, il savait ce que contenaient les enveloppes. Il reconnaissait son écriture, le format de l'enveloppe dans laquelle il avait enfermé telle ou telle affaire, et cela lui enlevait toute illusion. Il eût au moins fallu qu'une autre personne fît des souscriptions et usa d'enveloppes qu'il ne connaîtrait point. Le découragement le prit. Il s'ennuya tellement qu'il se donna un congé de quelques jours et erra par les rues. « Monsieur a mauvaise mine !» disait Delalie en regardant son maître. Et les mains dans les poches de son tablier, elle ajoutait « Je comprends vraiment pas qu'on se donne tant de mal à travailler quand ça rapporte aucun argent. » Il soupirait et quand elle sortait, se contemplait dans la glace. C'est pourtant vrai qu'il avait mauvaise mine. Et comme il était vieilli, ses yeux d'un bleu étonné, dolent, ses yeux toujours écarquillés, grands ouverts, se ridaient, et les pinceaux de ses sourcils devenaient blancs, son crâne se dénudait, ses favoris étaient tout gris, sa bouche même, soigneusement rasée, rentrait sous le menton en vedette. Enfin, son petit corps bouleau dégonflait, les épaules arquaient, ses vêtements semblaient élargis et plus vieux. Il se voyait ruiné, caduque, écrasé par cet âge de 50 ans qu'il supportait si allègrement tant qu'il travaillait dans un vrai bureau. « Monsieur devrait se purger !» reprenait Eulalie quand elle le voyait. « Monsieur s'ennuie. Pourquoi donc il irait pas à la pêche? Il nous rapporterait une friture de Seine, ça le distrairait. » Monsieur Bougrand secouait doucement la tête et sortait. Un jour que le hasard d'une promenade l'avait conduit, sans même qu'il s'en fût aperçu, au jardin des plantes, son regard fut tout à coup attiré par un mouvement de bras passant près de sa face. Il s'arrêta, se récupéra, et vit l'un de ses anciens garçons de bureau qu'il saluait. Oh, il eut un éclair, presque un cri de joie. « Hurlo !» dit-il. L'autre se retourna, enleva sa casquette, mit une pipe qu'il tenait à la main au port d'armes. « Oh, eh bien, mon ami, voyons, que devenez-vous ? Mais rien, monsieur Bougon, je bricole par-ci par-là pour gagner quelques sous en plus de ma retraite. Mais sauf votre respect, je foutinasse, car je suis bien loin, à grand-chose, pas bon, depuis que mes jambes ne vont plus. Écoutez, Yo-Yo, avez-vous encore une de vos tenues de garçon de bureau de ministère? Monsieur, oui, j'en ai une vieille que j'use chez moi pour épargner mes vêtements quand je sors. Hein? Monsieur Bougrand était plongé dans une méditation délicieuse. Le prendre à son service, en habit de bureau, chez lui. Tous les quarts d'heure, il entrerait comme autrefois dans sa pièce en apportant des papiers. Et puis il pourrait faire le départ, écrire l'adresse sur les enveloppes. Ce serait peut-être le bureau, enfin. Bon garçon, voici, écoutez-moi bien, reprit Monsieur Bougrand. Je vous donne 50 francs par mois pour venir chez moi. Absolument, vous entendez, absolument comme au bureau. Vous aurez au moins les escaliers à monter et à descendre. Mais vous allez raser votre barbe et porter comme jadis des favoris et remettre votre costume. Cela vous va-t-il? Reçu, ça me va! Et en bénissant, il cligna de l'œil. Vous allez donc, monsieur, monter un établissement, quelque chose comme une banque, monsieur Bougrand? Non, 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 c'est autre chose que je vous expliquerai quand le moment sera venu. En attendant, voici mon adresse. Arrangez-vous comme vous pourrez, mais venez chez moi demain, commencez votre travail. Et il le quitta et galopa, tout rajeuni, jusque chez lui. Ben voilà comme monsieur devrait être tous les jours, dit Eulalie qui l'observait et se demandait quel événement avait pu surgir dans cette vie plate. Il avait besoin de se débander, d'exhaler sa joie, de parler. Il raconta à la bonne sa rencontre. Puis il demeura inquiet et coi devant le regard sévère de cette femme. Alors, qui viendrait-ce, monsieur, pour rien faire, comme ça manger votre argent? Dit-elle d'un ton sec. Mais non, Eulalie, il aura sa tâche. Et puis c'est un brave homme, un vieux serviteur, bien au courant de son service. La belle avance, tiens, pour 50 francs, il serait là à se tourner les pouces, alors que moi qui fais le ménage, qui fais la cuisine, moi qui vous soigne, je ne touche pas que 40 francs par mois. Oh, c'est trop fort à la fin des fins. Non, monsieur Bougrand, ça ne peut pas s'arranger comme ça. Prenez ce vieux bureau d'homme et faites-vous frotter vos rhumatismes avec de la flanelle, ce baume qui pue la peinture. Moi, je m'en vais. C'est pas à mon âge qu'on supporte des traitements pareils. Monsieur Bougrand la regardait atterré. Mais voyons, ma bonne Eulalie, faut pas vous fâcher ainsi, voyons. Je vais, si vous le voulez, augmenter un petit peu vos gages. Mais gars, oh, c'est pas pour ces 50 francs que vous m'offrez maintenant par mois que je me déciderai à rester. C'est à cause de la manière dont vous agissez avec moi que je veux partir. Monsieur Bougrand se fit la réflexion qu'il ne lui avait pas du tout offert des gages de 50 francs. Son intention étant simplement de l'augmenter de 5 francs par mois, mais devant la figure irritée de la vieille qui déclarait que malgré tout elle allait partir, il courba la tête et fit des excuses, essayant de l'amadouer par des gracieusetés et d'obtenir d'elle qu'elle ne fît pas comme elle l'en menaçait, c'est mal. Et que vous ne le mettrez pas dans ma cuisine toujours? Demanda Eulalie, qui, ayant acquis ce qu'elle voulait, consentit à se détendre. Mais non, non, dans l'antichambre. Vous n'aurez ni à vous en occuper, ni à le voir. Vous voyez bien, ma fille, qu'il n'y avait pas de quoi vous emporter comme vous l'avez fait. Mais je m'emporte comme je veux et je n'en vois pas dire, cria-t-elle, remontant sur ses ergots, décidée à rester, mais à mater ses semblants de reproche. Harassé, M. Bougrand n'osa plus la regarder quand elle sortit, d'un air insolent et fier de la pièce. Le courrier n'est pas bien fort ce matin. Non, Uriot, non, non, nous nous relâchons. J'ai eu une grosse affaire à traiter hier, et comme je suis seul, j'ai dû délaisser les questions moins importantes, et le service en souffre. Nous mollissons, comme disait ce pauvre monsieur de Pinaudel. Monsieur l'a connu? Oui, mon garçon, oh, c'était un homme bien capable. Il n'avait pas son pareil pour rédiger une lettre délicate. Encore un honnête serviteur qu'on a mis comme moi à la retraite avant l'âge. Oh, s'il faut voir leur administration maintenant, des petites gens, des petits jeunes gens qui songent à leur plaisir, qui n'ont que la tête à ça. Oh, monsieur Bougrand, les bureaux baissent. Monsieur Bougrand eut un soupir, puis d'un signe, il congédia le garçon et se remit au travail. Ah, cette langue administrative qu'il fallait soigner, ces excipés de c'est en répondant à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser, j'ai l'honneur de vous faire connaître que c'est conformément à l'avis exprimé dans votre dépêche relative à ces phraséologies coutumières, l'esprit, sinon le texte de la loi, sans méconnaître l'importance des considérations que vous invoquez à l'appui de cette thèse. Enfin, ces formules destinées au ministère de la Justice, où l'on parlait de l'avis émané de sa chancellerie, toutes ces phrases évasives et atténuées, les j'inclinerais à croire, les il ne vous échappera pas, les j'attacherai du priat, tout ce vocabulaire de tournure remontant au temps de Colbert, donnait un terrible tintouin, monsieur Bougrand. La tête entre ses poings, il redisait les premières phrases dont il achevait le brouillon. Il était actuellement occupé aux exercices de haute école, plongé dans le pourvoi au Conseil d'État, et il annonçait l'inévitable formule du commencement. « Monsieur le Président, la section du contentieux m'a transmis à fin d'avis un recours formé devant le Conseil d'État par M. Untel à l'effet de faire annuler pour excès de pouvoir ma décision en date du... » Et la seconde phrase, « Avant d'aborder la discussion des arguments que le pétitionnaire fait valoir à l'appui de sa cause, je rappellerai sommairement les faits qui motivent le présent recours. » Et c'est ici que cela devenait difficile. Il faudrait envelopper cela, ne pas trop s'avancer, murmurait M. Bougrand. La réclamation de M. Untel est en droit fondé. Il s'agit de sortir habilement de ce litige, de ruser, de négliger certains points. En somme, j'ai au terme de la loi 40 jours pour répondre, je vais y songer. Cuire cela dans ma tête, ne pas défendre le ministre à l'aveuglette. « Ben, voici encore du courrier qui arrive, » dit Hurlot, en apportant deux lettres. « Encore, la journée est dure. Comme on dit déjà 4 heures. Oh, c'est étonnant tout de même, » se dit-il en humant une prise d'air quand le garçon fut sorti, comme ce Hurlot pue là et le vin. Ben, « tout comme au bureau, » ajouta-t-il satisfait. « Et de la poussière partout, jamais une balaye. » Toujours comme au bureau. Et ça, c'est nature. Ce qui était bien nature aussi, mais dont il ne s'apercevait guère, c'était l'antagonisme croissant de Lally et d'Uriot. Encore qu'il eût obtenu ses 50 francs par mois, la bonne ne pouvait s'habituer à ce pochard, qui était cependant serviable et doux et dormait dans l'antichambre sur une chaise en attendant que l'employé le sonnât. « Feignant, » disait-elle en remuant ses casseroles et ses cuivres, « quand on pense que ce vieux bureau ronfle toute la journée sans rien faire. » Et pour témoigner son mécontentement à son maître, elle rata volontairement des sauces, n'ouvrit plus la bouche et ferma violemment les portes. Timide, M. Bougrand baissait le nez, se fermait les oreilles pour ne pas entendre des abominables engueulades qui s'échangeait entre ces deux domestiques sur le seuil de la cuisine. Des bribes lui parvenaient cependant, où, unis dans une opinion commune, Eulalie et Uriot le traitaient ensemble de fou, de braque, de vieille bête. Il en conçut une tristesse qui influa sur son travail. Il ne pouvait plus maintenant s'asseoir en lui-même. Alors qu'il eût fallu, pour rédiger ce pourvoi, réunir toute l'attention dont il était capable, il éprouvait une évagation d'esprit absolu. Ses pensées se reportaient à ses scènes de ménage, à l'humeur massacrante de Lally, et comme il tentait de la désarmer par l'implorante douceur de son regard moutonnier, elle se rebiffait davantage, sûre de le vaincre en frappant fort. et lui, désespéré, restait seul chez lui le soir, mâchant un exécrable dîner, n'osant se plaindre. Ces tracas accélérèrent les infirmités de la vieillesse qui pesaient maintenant sur lui. Il avait le sang à la tête, étouffait après ses repas, dormait avec des sursauts atroces. Il eut bientôt du mal à descendre les escaliers et à sortir pour aller à son bureau. Mais il se raidissait, partait quand même le matin, marchait une demi-heure avant que de rentrer chez lui. Sa pauvre tête vacillait. Quand même, il s'usait sur ce pouvoir où commencer et dont il ne parvenait pas à se dépêtrer. Tenacement, alors qu'il se sentait l'esprit plus libre, il piochait encore cette question fictive qu'il s'était posée. Il se résolut enfin, mais il eut une contention de cerveau telle que son crâne chavira dans une secousse. Il poussa un cri. Ni Uriot ni la bonne ne se dérangèrent. Vers le soir, ils le trouvèrent tombé sur la table, la bouche bredouillante, les yeux vides. Ils amenèrent un médecin qui constata l'apoplexie et déclara que le malade était perdu. M. Bougrand mourut dans la nuit. Pendant que le garçon et la bonne s'insultaient et cherchaient réciproquement à s'éloigner pour fouiller les meubles. Sur le bureau, dans la pièce maintenant déserte, s'étalait la feuille de papier sur laquelle M. Bougrand avait en hâte, se sentant mourir, griffonné les dernières lignes de son pourvoi. Tous ces motifs, je le puis, Monsieur le Président, qu'émettre un avis défavorable sur la suite à donner au recours formé par Monsieur un tel.